Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Si vous nous suivez sur Vojo, vous avez certainement entendu parler de l'équipe Origin Vojo Connection. C'est une équipe de cross-country marathon née un peu par hasard de la collaboration entre Vojo et de la marque française Origin. Dans l'équipe, on retrouve Rémi Gros-Lambert et Basile Allard, deux excellents vététistes français. Alors quand on lance une équipe de marathon, de quoi est-ce qu'on rêve? Eh bien on rêve du Cape Epic, évidemment. On a profité du retour de Rémi et Basile de leur course en Afrique du Sud pour qu'ils nous racontent leur expérience, les galères et les joies qui les ont portés jusqu'aux portes du top 20. On en profite pour vous présenter le projet de l'équipe et les bons conseils pour se lancer sur une course de marathon. Et si vous êtes attentif, vous apprendrez même comment doubler Yaroslav Kulavi. Vous pouvez retrouver tous nos lunch rides sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube parce que presque tous les épisodes sont filmés. Et si vous nous suivez sur Instagram, vous aurez régulièrement la chance de pouvoir poser vos questions à nos prochains invités. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie d'aller rouler. Bonne écoute. On dit le ou la Cape Epic ?
Grand débat, je pense qu'on n'a pas la réponse. Nous, on dit la Cape Epic, je pense. Hein.
Ouais, ça part d'une course, donc...
Là-bas, ils disent Cape Epic.
Bon, ok, Cape Epic. Eh bien, on va parler du Cape Epic dans ce podcast, dans cet épisode du Lunch Ride. On est avec Basile, on est avec Rémi, et on va vous parler d'un team qui n'aurait pas dû exister, qui n'est pas prévu d'exister, qui répond au doux nom d'Origin Vojo Connection. Et initialement, je vais essayer de refaire un petit peu l'historique. Avec Vojo, on réfléchissait un petit peu à comment on allait bosser avec Origin. Pendant l'année 2023, Origin avait envie de chercher des ambassadeurs pour son nouveau vélo qui allait sortir et qui s'appelle le...
Théorème FS,
tout suspendu, effectivement. Et donc, on a sélectionné plusieurs personnes, on a fait un grand concours, il y a pas mal de gens qui ont participé, et on a retenu plusieurs, et il y a quand même deux profils un peu particuliers qui se sont distingués, c'était Basile, c'était Rémi, qui étaient deux compétiteurs avec un niveau un peu plus haut que tous les autres. Et là, l'idée a germé, finalement, plutôt qu'avoir deux simples ambassadeurs, c'est pourquoi pas monter une équipe qui va courir comme eux à haut niveau, principalement au marathon, et voilà, c'est un peu comme ça qu'est née l'équipe Origin Vojo. Origin s'attendait pas, Vojo s'y attendait pas, nous on n'avait pas du tout prévu de sponsoriser une équipe, et puis je sais pas si vous aviez prévu d'être ensemble.
Ouais, honnêtement, j'avais pas prévu non plus cette tissue-là, donc...
Et donc voilà, ouais. Quelques mois plus tard, vous êtes tout beau, et vous revenez d'Afrique du Sud, après le ou la Cape Epic, on sait toujours pas. Vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, on va dire qu'on est un petit peu décalé au niveau de la chaleur, parce que là, on a perdu 40 degrés en quelques jours, mais à part ça, tout va bien, on récupère tranquillement.
Ça, c'était la voix de Rémi. Rémi, t'as 27 ans, ça fait au moins 5 ou 6 ans que tu fais du marathon. T'as à ton palmarès une victoire sur la MB Race, t'as une victoire sur l'Alpine Cup, t'as participé 3 fois au championnat du monde de marathon. T'as une malédiction qui te poursuit, t'as fait 4 fois 4e au championnat de France de marathon, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, merci de remuer le couteau dans la plaie.
Et t'es un des deux papas de la marque de roues Evoride, donc t'es monteur de roues. Aujourd'hui, là, on est en train d'enregistrer, de filmer dans ton atelier, c'est pour ça qu'il y a des roues derrière nous, ça s'entend pas, mais en tout cas, ça se verra peut-être sur YouTube.
Exact.
Et à côté de toi, il y a le petit Basile qui a 26 ans, qui fait du marathon depuis 2 semaines.
Ah non, j'avais quand même un peu d'expérience, mais j'ai toujours voulu me voiler la face en me disant « Non, il faut que tu fasses du XCO ».
Tu fais toujours du XCO, t'as fait quand même pas mal de bons résultats en XCO, t'as fait un top 5 au Roc d'Azur, c'est ça, t'as fait un top 10 au Mondial en Espoir.
Ouais.
T'as fait pas mal de top 10 en Coupe de France, enfin voilà, là tu termines tes études d'ingénieur, et t'as fait avec Rémi la première course de marathon qui était l'Andalousia cette saison en équipe, et avant d'enchaîner sur le Cape Epic, mon programme.
Ouais, c'est sûr que ça faisait un peu peur parce que j'avais déjà fait des courses à étapes, mais jamais des aussi longues. Et ça va, je suis tombé avec le bon coéquipier qui ménage les organismes, qui ménage le matériel, donc c'est sûr que c'est plus facile de commencer comme ça.
Donc tous les deux, là, il y a cette équipe Origin Vojo Connection qui est née. L'objectif, c'est d'essayer de faire du contenu qui est plutôt sympa autour du marathon et pour vous d'aller vous challenger sur vos défis sportifs et sur les courses qui vous font envie. Qu'est-ce qui vous fait envie cette année ? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ?
Bah, se faire plaisir, c'est le maître mot de la saison.
Non, Rémi, c'est pas le maître mot de la saison. Tout le monde va dire ça. Et puis après, tu vas dire quoi ? Marquer les 3 points ? Non ! T'as pas envie de te faire plaisir.
Faire les belles courses à étapes qu'on apprécie, comme Cape Epic, comme les autres Epic Series, Swiss Epic, Andorra Epic. C'est vraiment des courses qu'on apprécie. Faire les belles courses de la région, Ember Race, des courses à belle renommée comme le Roc d'Azur, etc. Faire aussi un petit peu de haut niveau en allant peut-être sur une ou deux Coupes du Monde marathon.
La MB Race que tu as gagnée va être une Coupe du Monde cette année.
Exactement. Voilà, donc beau circuit, belle organisation, une Coupe du Monde, ça va être un événement à pas rater. Donc voilà, un petit peu l'objectif, c'est de mêler un petit peu les beaux événements, les événements de haut niveau, faire une belle communication autour de ça, essayer de promouvoir les partenaires au mieux, et puis surtout vivre des bons moments avec Basile, quoi.
Est-ce que tu as vécu des bons moments jusque-là, Basile ?
Ouais, franchement, que des bons moments, c'est sûr que bah voilà, on retient les petits pics pendant l'effort. C'est sûr qu'il y a toujours des fois des petites tensions quand on fait pas tout ce qu'il faut comme il faut au bon moment. Mais ouais, clairement, je pense que le maître mot du projet, c'est vivre des bons moments entre coéquipiers, rassembler des gens autour de ce projet et autour du marathon. Et avoir comme fil conducteur un peu les Epic Series. C'est une belle histoire à raconter, et puis je pense que c'est une belle entrée en matière pour Régine dans le marathon et dans le monde de la compétition.
Ouais, parce que vous avez eu, pour cette saison, vous avez eu un premier échauffement sur l'Andalousia. Ça s'est passé comment, Rémi ?
L'Andalousia, ça a été un peu compliqué, notamment pour moi, parce qu'en fait, tout s'est enchaîné très vite. On a réceptionné les vélos, on a dû faire la com sur le team, tourner une vidéo la veille du départ... nous deux aussi, on était pas mal chargés sur nos
jobs. Toi, sur ton travail, Basile, pour ses études, voilà. Il y avait plein d'échéances juste avant. Et c'est vrai que, ouais, si on revient un tout petit peu en arrière, avec Origine, quand même, c'est un projet qu'on a créé en fin d'année dernière, et on avait pas mal d'ambitions, notamment avoir un vélo qui est vraiment custom pour vous, des tenues qui vont avec, une communication qui est tout autour de l'équipe. Donc le vélo, là, il est derrière nous, c'est un vélo qui est vraiment unique, c'est une conception et un design partagé entre Esteban de Vojo et l'équipe d'Origine. Vous avez un maillot, évidemment, qui est custom aussi, avec vos partenaires, tout ça, il faut le mettre en avant, parce que finalement, une équipe, si personne ne la voit, personne ne sait qu'elle existe, et donc il a fallu faire de la communication, donc on a fait des photos, de la vidéo, 24 heures avant que vous partiez pour l'Andalousia, vous aviez qu'un seul maillot, qu'un seul cuissard court qui était dispo, il faisait quelle température ?
Ah, l'Andalousia, le premier jour, avec la pluie, on n'était pas loin des entre 0 et 5 degrés, on va
dire. À peu près comme pendant le shooting. Hein.
Ouais, pendant le shooting, on n'a pas un très bon souvenir des premières heures de shooting, parce que, ouais, on était dans la neige, en cuissard court, maillot court, et ouf, c'était ouais, pas drôle.
Les images de Julien, ça vaut le coup en vidéo. Ah, quand même.
Aucun c'est ce qu'on nous disait pour nous motiver. Hein. T'inquiète, ça rend bien sur l'écran.
Donc voilà, l'Andalousia un petit peu plus difficile, mais c'était une course d'échauffement, et là, je vous propose qu'on parle de la Cape Epic, Cape Epic. Pourquoi est-ce que c'est une course qui est mythique ? Pourquoi est-ce que c'est une course qui fait rêver tout le monde ? Pourquoi c'est une course qui vous fait rêver ?
Déjà, c'est une course très médiatique. On voit toutes les médias VTT de la planète en parlent. C'est assez exotique, hein. On va en Afrique du Sud, c'est à l'autre bout de la planète. Il y a un parcours qui est quand même ultra exigeant. On fait... En dehors du prologue, c'est 7 marathons d'affilée, en fait. Donc pendant 7 jours d'affilée, on enchaîne un marathon. Ça fait au total 630 km et je crois 16 000 mètres de dénivelé. Et c'est pas des kilomètres donnés, hein. c'est vraiment assez dur.
On passe en avance rapide, là on est quelques jours après votre tour du Cape Epic, vous êtes lessivés tous les deux. Vous venez de reprendre le vélo, vous avez eu votre premier entraînement.
Ouais, surtout que moi j'ai chopé un truc là-bas au ventre, donc là ça a bien fini de me lessiver, donc... ouais, c'est...
Et toi, Basile, ça t'a toujours fait rêver aussi, cette course ?
Ouais, clairement, ça m'a toujours fait rêver. Et puis, j'ai vraiment apprécié le fait que ça soit pas que des belles paroles et que vraiment les trails qu'on nous propose là-bas à rouler sont vraiment mythiques.
Parce qu'on entend un peu de tout. On entend que c'est parfois très roulant, que parfois on a beaucoup d'images de grandes pistes. Est-ce à quoi ça ressemble vraiment quand on roule là-bas ?
Bah, c'est sûr que c'est plus roulant qu'un XCO, mais c'est pas ce qu'on fait quand on fait du marathon. Et bah oui, il y a des départs qui sont des fois un peu roulants pour aller retrouver en fait des terrains privés où sont shapés tous les singles. Tout est vraiment typé vélo, typé bike.
Des trucs shapés juste pour le vélo.
Tout est shapé juste pour le vélo sur des terrains privés. On imagine difficilement ça possible ici. Et du coup, ça donne vraiment du fun à rouler en permanence. Et moi, c'est pour ça, chaque fin d'étape, j'avais le sourire. Parce que ouais, tu te fais kiffer sur le vélo, quoi. C'est dur dans l'effort, mais la récompense à rouler, elle est vraiment au rendez-vous. Quoi.
Ouais, il faut se rendre compte que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur les différentes vidéos de la Cape Epic, c'est pas forcément représentatif. J'en vois qui disent que c'est un parcours typé gravel, etc. En fait, pas du tout. Il y a des passages très, très cassants. 99% des descentes, c'est des trails chépé, VTT, cross-country. J'insiste sur cross-country parce que c'est vraiment des descentes. C'est du flow, c'est des relevés, des tables, des doubles. Et il n'y a pas besoin d'un gros vélo, mais c'est très ludique. Et ça, c'est vraiment la totalité des descentes qui sont comme ça. Et effectivement, il y a des passages un petit peu plus roulants, mais c'est le marathon. Et surtout, c'est ce qu'on voit vraiment quand c'est filmé d'hélico ou quand c'est filmé depuis un quad. Mais il y a tous les passages en forêt qui ne sont pas forcément faciles à filmer, qui là aussi sont très, très typés VTT plus que gravel.
Toi, Rémi, tu avais déjà une expérience sur la Cape Epic. Basile, toi, c'était ta première fois. Toi, Rémi, qu'est-ce que tu avais comme expérience sur cette course ?
Ouais, deuxième participation. J'avais déjà participé l'an passé avec Lucas Le Soin. La différence avec l'an passé, c'est que mon pauvre Lucas, il était tombé malade dès le premier jour. Et pour lui, ça avait été un guerrier parce qu'il s'était battu pendant 8 jours... en étant malade, ça n'avait pas rendu la course facile et du coup on n'avait pas pu profiter pleinement de la course. Il y avait eu aussi des conditions météo un peu moins agréables, on avait eu de la pluie, on était sous tente, donc c'était une autre épreuve, c'était beaucoup moins de confort et c'était moins typé performance, on va dire. Et en plus, cette année, en 2024, les parcours étaient quand même un cran au-dessus, je trouve que c'était un peu plus beau, un peu plus ludique encore.
Donc les parcours changent vraiment année après année, même si ouais. C'est une épreuve qui est vraiment installée.
Exactement, il y a 3 ou 4 villes étapes par année, donc on change d'un bivouac à l'autre. Et cette année, hormis Stellenbosch, toutes les villes étapes étaient différentes par rapport à l'an passé. Et oui, effectivement, le parcours était totalement différent.
Imagine le gars qui fait sa 20e participation, au bout d'un moment, s'il a envie d'y retourner, je pense que... Il faut des nouveaux trails pour attirer encore et encore les gens. Quoi.
Donc on le répète, c'est une course qui se court par équipe de 2. C'est assez élitiste. Devant, vous faisiez partie des équipes pro, vous étiez dans vous aviez un régime particulier.
Alors il y a une catégorie qui s'appelle pro UCI. Ça veut pas dire qu'on est pro, hein, c'est juste la catégorie. Donc ça c'est vraiment la première vague. Il faut savoir qu'il y a environ 500 équipes sur Cape Epic.
Et donc 1000 personnes.
Ouais, 1000 personnes.
Et ça se sent quand tu pars dernier ou dans les dernières équipes au prologue et que tu as 1000 personnes qui ont roulé sur le trail, en fait l'arco c'était bien pour savoir les bosses, mais les descentes ouais. C'était pas la même chose.
Voilà. Et donc il y a environ 60-70 équipes UCI chez les hommes.
OK, et donc vous étiez parti pour faire quelle place ?
Alors, quand on a parlé de ce projet en
top
octobre, 20. On visait
faut pas tourner autour du pot là.
On visait top 20. Et c'est clairement ce qu'on visait. Après, quand je suis arrivé à l'Andalousia et que j'ai vu la forme actuelle, on s'est dit top 20, ça va être compliqué. Encore plus au départ de la Cape Epic quand on a vu la start list. Et au final, on n'a pas fait top 20, mais c'était pas loin quand même.
Ouais, on va casser le suspense, vous terminez.
23e,
et devant, il y a quelques noms qui parlent un petit peu, par exemple.
Nino Schurter, il y avait vraiment en marathon, il y avait quand même un beau plateau. Il y avait quasiment toutes les équipes de marathoniens qui étaient là. Sébastien Fini, il y avait la team Bulls, la team Villiers, la team Megamo. C'est quand même des grosses équipes marathon.
C'est l'équipe Specialized qui gagne cette année.
Exactement, ouais, comme l'an passé.
Cette année, t'as ta première expérience où t'as été dans la boue, malade, la galère. Qu'est-ce que vous changez ? Est-ce que vous dormez toujours sous la tente ?
Non, cette année, on avait choisi. De dormir dans du dur pour être un peu plus confort et un peu plus performance. Et en plus, on a eu le support de Clément, notre photographe, assistant, conducteur, masseur,
team manager, tout.
Cuisinier, etc. Et il nous faisait tout et c'était quand même un peu plus confort pour nous.
Ouais, pour performer la Cape Epic, c'est compliqué d'être dans le setup de base sous la tente.
Ouais, déjà pour finir la Cape Epic, déjà.
Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. Ouais.
Ouais, déjà, en fait, c'est ça. C'est que ouais, c'est une course où déjà la finir. Sans embûche, sans pépin, c'est déjà une grosse performance. Et après, si on veut faire des temps et puis jouer devant, c'est sûr que ben, un staff, c'est le minimum, dormir dans du dur, c'est le minimum. Et voilà, après, quand on voit devant, en fait, pour performer, ils ont carrément des équipes de secours, et en fait, c'est pas pour rien que ça porte le nom du Tour de France du VTT, c'est parce que il y a vraiment un collectif, en fait, pour aller chercher la gagne, quoi.
Ouais, il y a les équipes qui sont vraiment là pour la gagne.
Ouais, qui doivent attendre, qui n'ont pas le droit de passer
devant
l'équipe.
C'est ça, il y a des équipes B, il y a un premier duo, ouais, et un deuxième duo qui portent le même nom avec le même vélo pour pouvoir passer un vélo ou des bidons,
des
choses comme ça.
Voilà, c'est ça.
C'est vraiment la course la plus dure qu'on ait fait, je pense. Peut-être qu'il existe des courses plus dures, mais en tout cas, sur le calendrier UCI, c'est la plus dure qu'on ait jamais fait. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect difficulté du parcours, il y a tout ce qui va autour, il y a la mécanique. On est quasiment une des seules équipes à avoir eu aucun problème mécanique. Quand on regarde les vidéos, les lives, on voit que les premiers, les charters, etc., ils ont beaucoup de soucis mécaniques. Il y a les problèmes de maladies qui sont très récurrents là-bas. Il y a plein de choses à gérer autour de cette course qui en font vraiment une course très très dure à gérer. Et c'est vraiment la première fois, enfin la seule course où ça fait quelque chose d'être finisher. On vient pas juste pour la performance.
Et justement, côté mécanique, comment est-ce que vous préparez votre vélo? Comment est-ce que vous préparez votre matériel pour la Cape Epic?
Ben, on a fait le choix donc d'avoir déjà des composants pour pouvoir embarquer tout ce qui est matériel de réparation. On a fait des petites trouvailles à droite à gauche pour notamment voilà mettre deux porte-bidons sur le vélo.
Sois concret, vas-y, explique-moi vraiment ce que c'est.
Ouais, bah voilà, surtout Rémi qui a déniché ça, c'est une marque sud-africaine qui fait ça, c'est Lean Components qui fait un porte-bidon pour adapter du coup deux porte-bidons à une fixation de porte-bidons sur le cadre. Et ça nous a permis sur le vélo origine de mettre deux porte-bidons. Et en fait, c'est simplement nécessaire. Il faudrait même limite deux porte-bidons et un camelbag pour venir à la fin de.
Je te vois sourire, Rémi. T'as une petite anecdote?
Ouais. Sur la. Bah, cette année, on a pris des températures particulièrement élevées. On a frôlé les 40 degrés sur quelques étapes et le matin on part à 7h donc on souffre pas trop de la chaleur, mais par contre il y a eu des étapes où j'ai vraiment particulièrement souffert de la chaleur, et dont une où j'ai dû dans les 8 derniers kilomètres m'arrêter à une ferme et mettre un pistolet sur la tempe d'un fermier pour qu'il me donne de l'eau, parce que sinon je voyais jamais l'arrivée. Donc ouais, non, c'était assez dur à gérer, là, l'hydratation. Et puis en plus, on ne voulait pas boire l'eau de l'organisation pour ne pas attraper de bactéries. Donc ça rendait un petit peu le problème encore plus complexe.
Et si on revient au vélo, donc là, vous avez parlé du porte-bidon. Vous dites que vous n'avez pas eu de soucis au niveau du cadre. Au niveau des pneus, qu'est-ce que vous avez choisi?
Pneus renforcés Hutchinson, donc les Hartkin. On avait des inserts anti-pincement PTN. On avait du liquide préventif Squirt qui est un des meilleurs, donc ça, enfin, vraiment les roues, les pneus, on a fait en sorte d'avoir aucun risque de crever. On a un vélo qui est très fiable, les suspensions sont fiables, le cadre origine est super fiable.
Là, vous faites évidemment la promo, bah, c'est le jeu parce que c'est l'équipe, mais le vélo, vous le connaissiez pas. Genre, ça faisait 3 semaines que vous rouliez.
Ouais, bah voilà, ça, c'est sûr que ça faisait un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de partir dans cette aventure avec ce cadre qui était. On est quasiment les premiers à rouler dessus. Donc, c'est sûr que ça fait un petit peu peur, mais voilà, on a eu zéro souci. On a quand même eu la chance de faire le premier test en Andalousie où on a vu que voilà, ça nous a enlevé d'un stress de voir que bah, voilà, le vélo il répondait bien.
Ouais, peaufiner
il
était vos réglages fiable. Aussi.
Ouais, peaufiner les réglages. Et du coup, ouais, en Afrique du Sud, on n'a eu aucun souci. On était bien posé sur le vélo. On avait bien pris nos repères, surtout sur les réglages de suspension, où on voyait qu'on arrivait à grappiller des duos à chaque descente. Donc ça, c'était vraiment toujours plus motivant, en fait, de voir que bah, voilà, en descente ça suit.
Toi, Basile, ta première arrivée en Afrique du Sud, ça s'est passé comment, le voyage?
Alors moi, c'était pas ma première fois en Afrique du Sud, du coup.
Ah ouais.
Ouais, j'avais eu. On va dire que c'est la quatrième fois que j'y vais.
Ah ouais, très bien.
Une fois perso et puis deux fois en course. Une fois pour les Autosky, donc en atterrissant à Johannesburg. Et puis j'étais déjà venu à Stellenbosch en fait pour la Coupe du Monde. Ah. Ouais, donc j'avais la chance de connaître un petit peu le coin. Mais voilà, c'est sûr que quand on arrive en Afrique du Sud, il y a toujours la problématique du voyage. Il n'y a pas de décalage horaire, mais les vols, il y en a pas mal qui s'effectuent de nuit. Donc il y en a eu un petit vol de nuit où le matin avant de partir, j'ai fait un saut à la pharmacie pour essayer de trouver de la mélatonine, et On m'a donné quelque chose qui marche mieux, donc c'est des antihistaminiques. Et apparemment, c'était pour nous mettre KO, pour pas avoir passé la nuit dans l'avion.
Alors, ça a très bien marché, mais je précise, ça passe au contrôle antidopage quand même. On a bien regardé.
Bon, et quand on arrive en Afrique du Sud, vous faites quoi? Vous vous lancez directement? Vous arrivez la veille de la course? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, nous, on est arrivé l'avant-veille. Au matin, mais c'est vraiment le minimum syndical pour... Ouais, c'était vraiment presque un peu tard pour s'acclimater à la chaleur, pour récupérer du voyage de 15 heures en avion qui n'est pas idéal. Et donc, on a dû dérouler le jour où on est arrivé. Merci Basile pour les bords d'autoroute typiques sud-africains.
Ouais, c'est parce que tu connais bien l'Afrique du Sud.
Exactement. Et en fait, en Afrique du Sud, l'autoroute, c'est un milieu partagé. Donc, on peut voir donc bien sûr des voitures, des camions, des motos, des charrettes avec des ânes et des super single track le long de l'autoroute où tu t'amuses avec du flow. Non, sans blague, il y avait vraiment un petit single track tout le long de l'autoroute.
Il se rassure comme il peut.
Non, vraiment.
Allez, on est en passant d'avance rapide au début de la course. Comment, quand ça se lance, vous êtes dans quel état? Vous dites, ça y est, je suis en forme, c'est parti, on va tous les fumer. Vous êtes dans quel état d'esprit?
Ouais, envie d'y aller, excité, mais la bonne excitation, juste, on avait envie de vivre le moment, on avait envie de performer, même si je savais que j'étais pas dans la meilleure forme de ma vie, on avait juste le couteau entre les dents. Ce qui était cool, c'est qu'on a pas mal de points UCI, donc on partait bien placé au prologue, on partait dans l'ordre inverse du classement UCI. Et juste derrière nous, il y avait un certain Yaroslav Koulavi au prologue qui partait une minute derrière nous. Donc on a eu la chance de rouler avec lui au prologue.
Ouais, vous roulez avec vos idoles quand même sur cette course.
Ouais,
bah c'est ça. Mais ouais, en fait, tout le monde est... C'est plus décontracté en fait que ce qu'on a l'habitude de voir en XCO, enfin, de ce que j'ai vécu en XCO. Et du coup, ouais, tu peux rouler avec tes idoles, rouler avec des youtubeurs super connus et puis même sympathiser avec eux. Donc là, c'est sûr que... Voir Yaroslav dans le rétro qui nous remonte dessus à vitesse grand V, bah voilà, ça met un petit peu de... Ça redonne un petit peu des watts dans les jambes, même si voilà, fallait quand même gérer pour la semaine.
C'est quoi votre semaine avec Yaroslav?
Ah, on a plusieurs épisodes. Donc on a le prologue, où on a pu rouler un petit peu avec lui, et puis il nous a déposé sur la fin quand même. Et puis il y a l'étape 2, où on voit notre Yaroslav, kilomètre 8, en train de se battre avec ses pneus Zlin, là. Une marque qu'on ne connaissait pas, comme maintenant on connaît. Et puis, pendant trois fois, en 10 km, il nous a redoublé. Et puis, on le voyait après remettre une mèche dans son pneu. Donc bon, et puis au bout de la troisième fois, il nous redouble. Et j'essaye d'accrocher. Ça aurait été intéressant de réussir à prendre la roue. C'était très plat, donc il aurait fallu. J'arrive pas. Donc on le laisse partir. Et puis là, il y a mon Basile sauvage qui prend Harley, qui dit « Non, je veux rentrer sur Yaroslav ». Donc ben moi je me suis mis dans la roue, j'ai fait un petit peu le drapeau pendant quelques kilomètres et puis on est rentré sur Yaroslav. Et puis moi bon j'ai vécu 15 kilomètres à mettre tout ce que j'avais pour rester dans la roue. Et puis vient un moment où on arrive sur la route, il y avait 2 kilomètres de route au plat. Puis toujours derrière Yaroslav en train de faire le drapeau. Et puis là je vois Basile qui prend Harley à coup la vie. Et puis d'un coup il s'écarte mais du coup c'était moi derrière, du coup je prends mon relais aussi. Et puis bref comme ça on voit leur... la voiture de leur team média qui nous double et qui commence à faire un travelling. Et du coup, on avait Yaroslav dans la roue. Et nous, le soir, on a mis toutes les alarmes qu'on pouvait sur le compte de Yaroslav. On voulait le film où on est en train de rouler devant Yaroslav. Mais au final,
le
plan y est, hein, mais ils nous ont coupé. Du coup, bah, on ne l'a pas. Et donc, on fait cette portion route, on arrive au ravitaillement. Et là, on fait un ravito digne de Charles Leclerc, tu vois. On est ultra rapide. Et Yaroslav, il met un peu plus de temps, parce qu'il était un peu moins pressé, il venait de perdre je sais pas combien de temps sur crevaison. Et donc là, on voit Clément, notre caméraman, sur le côté un peu plus loin, on dit « Ouais, on a fait sauter Yaroslav et tout !» On n'avait pas dit que c'était sur un ravito express, on laissait supposer que c'était à la pédale. Donc très fier, etc. Bon, on se retourne, il était 10 mètres derrière, il rentrait, tu vois. Et puis autant te dire que 5 km plus loin, bah, il était devant, hein, et puis on l'a jamais revu. Hein. Mais voilà, c'était drôle. Et puis bon... on a vu que deux jours plus tard, il a un petit peu trop pris la confiance avec ses nouveaux pneus et les Zlin ont fait slip. Et il s'est retrouvé avec la clavicule au niveau de la hanche, quoi.
Alors ça, c'était votre running gag pendant toute la course avec Yaroslav. Mais vous, pendant la course, ça s'est passé comment? Vous étiez dans quel état de forme? Parce que là, vous êtes un duo, vous vous connaissez, mais vous ne roulez pas ensemble tout le temps non plus. Comment on se gère? Comment on roule à deux?
Bah, c'est sûr que ça, ça en a fait parler plus d'un, parce qu'on a des manières de rouler assez différentes avec Rémi. Rémi, c'est tout dans la gestion, tout est millimétré. Le capteur, on part pas trop vite, on remonte sur la fin. Moi, c'est un peu l'inverse. C'est je mets tout, et puis bah, ça passe ou ça casse.
Et vous aviez un plan, vous êtes engueulé toute la course, comment vous avez fait?
Et ben, c'est là que l'Andalusia prend tout son sens. Il a essayé de m'éduquer, faire une formation rapide pendant les 5 jours de l'Andalusia, pour essayer voilà, de se comprendre, voir l'état de forme de chacun. Et donc de me driver sur les bonnes manières en fait en marathon en duo. Et donc voilà, le but c'est le plus fort qui s'adapte à l'heure du plus faible, surtout en boss. On essaye de soulager en fait le plus faible du duo et voilà l'aider comme il faut et puis voilà quoi, c'est s'entraider, essayer de bien discuter en fait. On pense que c'est aussi ce qui amène la bonne performance, parce que au fur et à mesure des jours, les équipes elles roulent ensemble au début. La deuxième étape, ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, 20 mètres, et puis à la fin, ils se font limite reprendre par le commissaire parce qu'ils sont hors des délais.
Ça fait partie des trucs qui sont vraiment importants sur la course, c'est réussir à rester ensemble et à rouler ensemble pendant une semaine. Vous avez vu des équipes qui se déchirent.
On a vu des équipes qui se déchiraient, plus qu'on ne pense. Hein. Je pense que Kepepik, ça met quand même un duo à l'épreuve. N'y allez pas avec votre compagne ou votre compagnon, vous pourriez avoir des problèmes. Mais en fait, nous, on a eu du mal à se roder, je pense, au début de semaine. Et nous, c'était de mieux en mieux et on s'entendait de mieux en mieux sur les étapes au fur et à mesure de la semaine. Et c'était un petit peu l'inverse pour les autres équipes. Mais ouais, le principe de base, c'était vraiment en montée, c'est le plus faible qui donne l'allure. Au plat, c'est le plus fort, donc Basile qui essaye de redonner une impulsion et de m'abriter dans sa roue pour que je puisse conserver une bonne allure. Et puis après, en descente, il n'y a pas vraiment de règles.
Là, vous avez un niveau assez homogène en descente.
Ouais. En descente, ouais. Et ça, c'est très, très, très...
Est-ce que vous avez fait plaisir un peu en descente?
Ouais. On s'est régalé.
Ouais, on s'est régalé quand on arrive sur les portions de bike park. Alors après, c'est sûr qu'on s'appelle pas Nino Schurter à tirer des whips dans tous les sens, mais pour qui sait maîtriser un peu sa machine, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, quoi.
Les trails étaient exceptionnels, du coup on prenait beaucoup de plaisir, et puis en fait les marathoniens sont pas forcément les meilleurs techniquement, et donc nous on avait un petit avantage là-dessus, et c'est vrai que
on a des vélos... Il y a eu des petites coupes sauvages pour... ouais, c'est ça, des fois quand on se retrouve on peut pas en vouloir, parce que du coup il y a des fois des descentes de 15 minutes en single trail, du coup c'est sûr que bah voilà, on peut pas critiquer ça, mais du coup, quand il y a une équipe qui veut pas nous laisser passer devant, ben, on demande une fois, deux fois, trois fois poliment, et puis la quatrième fois, on prend les devants. Donc, il y a eu des petites découpes sauvages où il y en a, ils descendaient tranquillement, et puis ils ont vu un Rémi qui déboulait de la forêt à 90 degrés. Voilà, c'était... Voilà, on a blessé, c'est la course, quoi.
On a blessé personne, on vous rassure.
On a blessé personne.
Nous, on a pris un grand plaisir chez Vojo à vous suivre toute la semaine. Bon, déjà, un grand bravo à Clément qui était avec vous et qui s'est occupé de la partie média, parce que vous, quand vous rouliez, bah, lui, il était en train de crapahuter dans le désert pour réussir à...
Enfin, non, il shootait des hélicoptères.
Non, il a fait vraiment des photos et des vidéos qui étaient superbes, et c'est ce qu'on a pu mettre sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on a pu vous suivre toute la semaine. Mais on a pu vous suivre au départ, vous étiez entre la 30 et la 35e place, ensuite vous êtes remonté vers la 30e place pour arriver jusqu'à la 23e, donc c'est vraiment vraiment agréable à suivre. Et puis bah, visiblement c'est votre équipe, elle a suivi le rythme de monsieur Groslambert comme un bon vieux diesel qui est remonté tout au long de la semaine tracté par un Basile sauvage, comme tu dis, Rémi.
C'est ça.
Et je me posais la question sur une cape épique où finalement c'est long, il faut s'économiser, mais en même temps quand on voit les écarts parfois bah, ça se joue à pas tant que ça. Est-ce que ça frotte au départ, est-ce que ça roule ensemble, comment ça se passe?
Les départs sont très nerveux, de moins en moins au fur et à mesure de la semaine, parce que tout le monde se calme un petit peu avec la fatigue, on va dire. Mais oui, le départ, c'est très nerveux.
Il y a
c'est
des chutes, ça frotte un petit peu.
C'est très rapide, et le premier jour, il y a eu une chute massive, ça a vraiment coupé en deux le peloton, et il y a eu pas mal de monde par terre. Et il y en a eu plusieurs jours, hein, des chutes, il y a eu au moins trois jours où c'est tombé au départ.
Ouais, c'est ça, il y a une partie qui était... Au début neutralisé sur route, et puis après on commençait vraiment à rouler à vive allure, et bah ouais, ça pardonne pas, tout le monde veut se placer en fait pour rentrer en tête devant dans les sentiers, donc ouais, il y en a qui ont...
Sur le bord du chemin, vous voyez des trucs qui sont... ouais. Tout le monde n'est pas forcément en bon état, quoi.
Non. Ouais, c'est ça. Mais en fait, chaque étape commence généralement par une dizaine de kilomètres assez roulants, et du coup ça fait un peloton devant qui roule très fort avec les pros. Et derrière, il y a une espèce de file indienne, et personne ne veut lâcher, et du coup, en fait, on roule à l'allure du peloton devant, mais on est en file indienne, et À chaque virage, on prend des grosses relances et c'est assez tonique hein, les 10 premiers kilomètres. Et généralement, sur la première montée, ça se tasse un petit peu. Mais ouais, on a vu sur les premiers hectomètres de chaque étape, on a vu des cintres cassés, des chutes, des crevaisons, des roues cassées. On a vu un peu de tout, ouais, ça c'est clair.
Et moi, j'ai le souvenir comme ça d'une vidéo qui avait tourné sur une vieille édition du KPP, une espèce d'antilope qui saute et qui éclate un vététiste. Est-ce que vous avez dû slalomer entre les antilopes? Vous avez vu un peu la faune sauvage?
Alors nous, on a sympathisé avec des troupeaux de babouins, mais il y a des équipes, notamment chez les filles, ouais, qu'ont vu débouler une antilope juste devant. Je pense qu'il y en a, ils sont toujours parmi de leurs frayeurs, là.
Ouais, c'est clair.
Tiens, je me suis noté dans mes petites notes, il paraît que c'est passé un petit truc au départ de l'étape 3, c'était l'étape un peu tranquille, c'est ça hein?
Ouais, étape de transition.
Transition stage, qu'il appelle.
On s'était dit... Le lendemain, c'était la Queen Stage, donc l'étape la plus dure. On s'était dit, aujourd'hui, on va faire la course à fond. On va faire la course un peu plus tranquille pour s'économiser pour le lendemain. Et c'était la pire des étapes. C'était horrible. En fait, on a commencé, c'était ultra cassant. Donc,
avant même de commencer.
Non, il y avait... Ah, ouais. Okay. Mais surtout, il y avait beaucoup de vent. Mais avant de commencer, même.
Moi, je sais où Paul veut nous amener.
C'est parce que tu nous as raconté
c'est
ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu vas pas passer à côté.
Je t'avais pas suivi. Ouais, mais en fait, les départs sont dans des grands champs qu'ils ont fauchés quelques semaines avant. Et un peu comme au Roc d'Azur...
Ce que j'allais dire, ça rappelle un peu le Roc d'Azur.
Un peu comme au Roc d'Azur, il y a des épines qui traînent. Et je me suis retrouvé à 5 minutes avant un départ, ou 10 minutes avant un départ, avec une crevaison. Donc, petit moment de panique, on n'avait pas de roue de rechange qui était prête, etc. On a dû mettre une mèche à...
Si, la roue de rechange avait aussi des épines.
Ouais, enfin...
J'enlève l'épine, geyser.
On n'était pas prêts, du coup, on a mis une mèche. Et au final, j'ai fait 5 étapes avec la mèche dans le pneu et c'était nickel.
Bon, bah super. Et ouais, donc le milieu de la 3e étape, c'était pas aussi facile que ça aurait dû être.
Ouais, ça faisait, c'était une étape qui faisait quasiment 100 km. Et on commence, c'était un champ de cailloux, on n'avançait pas, c'était horrible. Après, il y a eu un col qui faisait 10 ou 15 km sur route, c'était infâme. Après, on était rattrapé par la chaleur, il y avait des montées raides. Et c'était l'étape où on s'est dit on y va tranquille et c'est l'étape où on a fini...
À braquer le fermier.
À braquer le fermier et dans un état détestable. Donc c'était vraiment...
Ouais, tu parles de la chaleur, justement la Queen Stage qui était l'étape reine la plus longue et probablement la plus belle a été raccourcie le lendemain parce qu'il y avait un pic à 38-40 degrés qui était annoncé. Comment est-ce que vous le gérez là, les petits blancs-becs que vous êtes?
Honnêtement, la Queen Stage, c'est pas celle où on a le plus souffert de la chaleur parce que c'était... Je crois qu'il l'appelait, c'était l'étape aux billes épingles. C'est vrai qu'on a monté un nombre d'épingles incalculable. À la fin, on en avait limite marre de tourner tellement il y en avait. Mais en fait, elle montait dans un petit vallon abrité par des arbres avec un petit filet d'eau qui coulait. Et on n'a pas tant souffert de la chaleur que ça. Et voilà. Après, je pense qu'elle parlait surtout... elle porte son nom Queen Stage, non pas parce que c'est celle qui est la plus longue, mais c'était vraiment celle... la plus belle en fait à rouler, des paysages quand on arrive en haut à découvert avec des épingles. Enfin, moi j'invite ceux qui le veulent à aller regarder les vidéos qu'on peut retrouver sur différents comptes où on voit justement toutes ces épingles. On a l'impression que c'est un montage quoi.
Moi je l'ai vu sur mon compte Instagram préféré, Nino the Pilot, parce que notre ami Nino Schurter, quand il a fini sa journée de course, il fait des petites promenades en hélico, c'est son petit passe-temps. Il passe d'ailleurs d'un camp de base à l'autre camp de base quand vous êtes en train de galérer en voiture, lui il le passe en hélico. Vous lui faites coucou d'en bas de temps en temps ou pas?
Ouais, Nino on l'a pas beaucoup vu cette semaine, hein. C'était... Ouais, il faisait les transferts en hélico et pendant la course on le voyait pas non plus parce qu'il était un petit peu plus à l'avant. Pas beaucoup, un petit peu plus.
Non, c'est dingue de se dire que vous terminez 23e, mais vous êtes à combien de la gagne?
Un peu plus de 3 heures, je
crois. On a une étape.
Mais c'est complètement fou.
On a une étape de la gagne.
Ouais, c'est assez fou.
Et vous roulez, enfin, vous êtes pas des amateurs, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, c'est fou, hein. Devant, ils ont une allure, c'est assez incroyable, et ils mettent une intensité de A à Z pendant toutes les étapes. C'est assez fou à voir, et... Et en plus, ils sont super forts, quoi. Il n'y a rien à dire, hein, ça, c'est clair. Hein.
Comment on s'alimente sur la KPP?
Beaucoup de gel.
On s'alimente beaucoup, déjà. Ouais, il faut vraiment faire attention à vraiment combler ses dépenses énergétiques, parce que, surtout quand on n'est pas habitué, on peut vite se faire avoir à ne pas manger assez, surtout que bah, avec la chaleur, on a forcément moins d'appétit. Donc, c'est vraiment manger le plus possible. Déjà, des gels pour la facilité. Et puis vraiment faire gaffe aussi à tout ce qui est perte de sels minéraux pour éviter toutes les crampes, etc. Et puis,
ouais, c'est ça. Cette année, on travaille avec 226. Et on quantifie la quantité de glucides qu'on ingurgite par heure pour être sûr de carburer avec la bonne quantité d'énergie. Et donc, il y a cette quantité d'énergie. On fait gaffe aux minéraux qu'on prend, aux sels qu'on perd. On essaye de s'hydrater. Pareil, on essaye de quantifier un petit peu toutes les heures ce qu'on prend. Et puis, ouais, en dehors de la course, il faut refaire les stocks tous les jours. Et vu qu'on brûle entre 4 5 000 calories tous les jours, on mange énormément. Et en fait, moi, j'ai trouvé que ça devenait pesant en fin de semaine parce qu'on n'a plus envie de manger, quoi. On mange parce qu'on doit récupérer, on doit faire des stocks.
Et puis, un peu limité par l'alimentation sur les crudités. Donc, c'est vrai que fin de semaine...
Ouais, c'est ça. On fait attention à ne pas tomber malade. Donc, on ne mangeait que des choses cuites. Tout ce qui était viande, il fallait le prendre bien cuit. Tout ce qui était fruits, il fallait enlever la peau et bien laver. Enfin voilà, et on faisait attention à ça. Et du coup, en fait, ça, c'était des restrictions en plus du régime sportif qui font qu'on s'était pas ultra varié. Et à la fin, c'était pas de l'alimentation plaisir.
Quelle tristesse. <Ouais. rire> Vous terminiez vos étapes, vous partiez très tôt pour éviter la chaleur, c'est ça?
7 heures.
Ouais, 7 heures. C'est-à-dire réveil à quelle heure?
Réveil à 5 heures, un peu avant 5 heures. Du coup, heure française, ça faisait un peu avant 4 heures. Donc au bout de 8 jours, on est content de ne pas mettre de réveil.
Mais quand vous finissez la course à 11 heures, après, vous êtes peinard. Qu'est-ce que
ça aurait été trop facile, ça. Ça, c'est les pro-teams qui sont peinards.
Ouais.
Nous, on a dû faire la mécanique de nos vélos, fignoler le lavage, parce qu'il y a quand même des lavages sur place où on nous lave les vélos direct après l'étape. Puis après, forcément, une petite sieste s'impose, un petit goûter pour récupérer les dépenses énergétiques, et ensuite déjà préparer l'étape du lendemain, en fait. Donc préparer les bidons pour amener à l'organisation, parce qu'il y a un service de personal nutrition où ils nous tendent nos propres bidons, comme l'a dit Rémi, qu'on a quantifié avant. Donc en fait, voilà, c'est à partir de 14h, 15h, en fait, on pense déjà à l'étape du lendemain. Un peu quand même bosser sur le parcours.
Vous avez changé de logement chaque jour ou presque.
Donc voilà, c'est sûr qu'en fait, il n'y a pas tant de période de récupération, quoi.
Il faut se rendre compte que c'est une grande logistique toutes les après-midi et qu'en fait, on est tellement fatigué que tout prend du temps à être fait. Et en fait, il y a très peu de moments de repos, quoi. Et il faut se rendre compte aussi qu'à 20h30, on est couché, donc on n'a pas une soirée éternelle pour faire tout ce qu'on a besoin de faire.
La mécanique, ça se passe comment?
Et quand on n'a pas trop de soucis, ça va, mais sinon, suivant ton niveau de professionnalisme avec ton équipe, ça va du mécano qui gère tout de A à Z à finir à faire de la mécanique dans la salle de bain pour essayer de refaire marcher ce qui ne fonctionnait plus pendant l'étape.
Vous avez dû changer beaucoup de choses, vous avez dû régler beaucoup de choses. Non, qu'est-ce que vous avez dû faire, vous, de votre côté?
On n'a pas changé grand-chose parce qu'on n'a pas cassé, mais voilà, comme on l'a dit, les parcours avec la poussière et surtout dans des terrains où en fait c'est même plus de la poussière mais de la cendre, tout ce qui est suspension, ça prend un petit peu cher. Et du coup, tout ce qui était relubrification de suspension, mini-service pour garder l'onctuosité des suspensions, ça s'est fini dans la salle de bain. Heureusement, les gens sont pas venus.
Je pense qu'on a fait une lubrification de fourche qui n'était pas très académique, avec des riselants et de l'huile rentrée par les plongeurs. C'était pas académique, mais ça a très bien marché. Ça nous a pas pris beaucoup de temps. Mais je pense qu'à refaire, ce serait bien de le faire dans les règles de l'art.
Oui, c'est prévu.
Et c'est là où c'est bien de se dire que vu que vous n'êtes pas pris la tête pendant la course et que vous pouvez continuer à rouler ensemble, vous pouvez vous mettre des petites galères comme ça le soir et tout. Parce que ceux qui se prennent la tête sur le vélo, ça, le soir, ça doit être dur aussi.
Non, c'est ça. Là, quand même, à la fin de l'étape, on était quand même à deux sur un vélo. C'est quand même beau. C'était pas chacun qui faisait son vélo dans son coin.
Il y en a vraiment des équipes comme ça qui roulent séparées.
Il y en a, à l'arrivée, ils se disent même pas bravo. C'est chacun dans son coin. Et puis, c'est même pas.
On voit des équipiers à l'arrivée, ça se sépare en deux,
ça se split, hein.
Et ça se parle pas, et c'est assez courant quand même, hein.
Bon, vous, quel regard est-ce que vous avez chacun un peu sur votre cape épique, sur cette 23e place, Rémi?
Ouais, alors pas très en forme sur ce début d'année. On l'a vu à l'Andalousia, c'était assez pas catastrophique, mais c'était vraiment pas terrible. Cape épique, on a réussi à rectifier un petit peu le tir en deux semaines. Et puis, il n'y a pas eu de miracle non plus, j'étais pas dans une forme olympique. Mais très très content d'avoir su exploiter le potentiel à disposition sur la KEP, parce qu'en fait, faire 23e avec cette forme-là, c'était un peu inespéré quand même. On est passé à travers tous les déboires mécaniques, on n'est pas tombé malade, on n'a pas eu de soucis, on a fait des gestions propres. Le moteur a tenu quasiment jusqu'au bout, et ça, c'était pas donné. Il a commencé à rendre l'âme l'avant-dernière étape à 30 km de l'arrivée, donc c'est quand même un moindre mal. Et puis non, on s'en est super bien sortis, quoi. 23e, quand on regarde, les 6-7 équipes derrière nous, elles étaient plus fortes, mais juste, elles ont moins bien géré, elles étaient moins régulières, quoi.
Basile ?
Ah, honnêtement, moi, le débrief, c'est un smile jusqu'aux oreilles. J'avais pas vraiment d'ambition de résultat. C'est ma première saison en marathon, je sais pas trop ce que je peux valoir sur des grandes distances comme ça. Je m'étais pas mis d'objectif de résultat. C'est pas mon but, c'est pas ma démarche dans ce projet-là. Moi, c'est vraiment me faire plaisir, rassembler des gens et puis appuyer, me faire mal en marathon, mais juste pour faire du plaisir et puis faire de l'image, faire de la communication. Donc moi, je pense que le contrat, il est rempli de ce côté-là, parce que quand on voit les parcours, les trails, et puis ce qu'on peut rouler, c'est vraiment dingue. Faire ça en plus entre potes, c'est magique. Donc tout est rempli, et puis quand on l'a fait une fois, on a marqué newbie sur le dossard, on a vu qu'une chose, c'est d'y retourner, quoi.
Et vous passez par quelle émotion quand vous passez la ligne d'arrivée de la dernière étape ?
De l'eau, déjà. La première émotion, c'est de l'eau, s'il vous plaît.
Alors moi, je dois avouer que c'était quand même un soulagement. Parce que les deux derniers jours, c'était quand même bien galère. Et beau soulagement, mais grande, grande satisfaction, parce que, Cape Epic réussit quand même. Et puis, ouais, on était contents, envie de célébrer, un peu de partager nos ressentis avec les autres équipes, parce qu'au final, on n'a pas le temps de trop partager pendant la semaine, c'est un peu une frustration, ça.
Tout le monde a un peu sa routine le soir.
Ouais, et puis, chaque minute passée de mon logement, ouais, dans le lit, ça compte, quoi. Donc,
En fait, on essaye de pas s'éterniser sur le site d'arrivée, on essaye d'arriver le plus tard possible le matin. Et les équipes, on s'entend bien, en course, on rigole un peu avec les autres équipes, mais une fois l'arrivée franchie, on fait chacun son truc, on va chacun de son côté. Et là, non, c'était cool d'arrêter de tout calculer. Parce que sur une semaine comme ça, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à pas boire l'eau de l'orga, tu fais attention à tout ce que tu fais, et dès que tu passes la ligne d'arrivée, tu penses au lendemain pour être le plus performant possible. Et là, une fois la ligne d'arrivée franchie, la dernière étape, juste t'arrêtes de calculer et tu profites, quoi.
Trop bien. Merci Basile, merci Rémi, et on va vous continuer de vous suivre pendant toute la saison. Vous avez pu retrouver pas mal de contenu sur Vojo, sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, avec des belles images de vous deux, soit par Clément pendant la Cape Epic, soit par notre équipe en début de saison, et ça va continuer.
Ouais, top, c'est cool.
Merci. Yes.
Merci Vojo. Et la bonne paire.
Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.